journée, presque à la fin du cycle, mais en réalité, non, on n'est pas à la fin du cycle sur les nanotechnologies, parce que je pense qu'on va en parler et reparler pendant longtemps. Et vous allez noter la subtilité de la programmation, parce que on va sans doute se projeter sur l'avenir avec l'exposé qui arrive, donc qui nous est présenté par Philippe Houdy. Je vais vous dire quelques mots de Philippe Houdy. Il est professeur à l'Université d'Évry. Et c'est quelqu'un qui apparemment est tombé dans les nanotechnologies déjà depuis longtemps, hein, presque à votre naissance, en tout cas sur le plan professionnel. Donc après un parcours chez Philips, il est arrivé à l'Université d'Évry, et donc il y est depuis 1992, et il étudie particulièrement la nanomécanique. Donc il est particulièrement bien placé pour parler des nanosciences et des nanotechnologies, et en plus il a commis un livre, enfin plusieurs livres, donc il est co-auteur de plusieurs livres, donc qui sont sur le présentoir ici au milieu de la salle, et en particulier, donc il faut signaler qu'il a obtenu le prix Robert Valle 2008. Alors dans la note de présentation, il est dit que c'est le Goncourt des sciences, donc félicitations. Il était co-auteur du livre 2 sur les nanosciences avec Catherine Bréchignac et Marcel Lamanni. Donc nous vous écoutons nous parler d'avancées et risques des nanosciences.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation aussi. Allô? Allô?
Ça marche.
Ça marche,
je vous entends. Oui.
Bien, donc je vais vous parler d'avancées et risques. Alors depuis un an, vous avez eu une série de conférences et puis une exposition en cours. Je vais parler de ça et je vais vous parler des quatre livres que vous pouvez trouver sur la table avec les bons de commande d'ailleurs. N'oubliez pas de prendre un bon de commande en repartant. Donc ce sont des livres qui ont été faits pour les masters, master 1, master 2. Donc c'est pour les étudiants qui vont faire des nanosciences et puis pour les chercheurs et les enseignants de telle façon à ce qu'ils puissent s'initier aux nanosciences. Hein. Nous sommes coordinateurs avec Marcel Lamanni et puis d'autres personnes de ces livres, de ces quatre livres, Nanophysique, Nanochimie, Nanobiologie et le dernier qui vient de sortir en octobre, Nanotoxicologie. Nous sommes les coordinateurs. Hein, ces livres ont été écrits par tous les labos nanosciences de France. Hein, donc c'est toute la communauté nanosciences qui se retrouve dans ces livres. Donc c'est un domaine tellement vaste qui intéresse la physique, la chimie, la biologie, la toxicologie, qu'il était bien sûr impossible d'écrire 4 fois 1000 pages sur ce domaine. Donc nous avons fait appel à toute la communauté nanosciences et c'est elle qu'il faut remercier et féliciter à travers ces livres. Alors je vais vous parler des avancées et des risques et j'essaierai d'aller. Donc on va faire un cinquième livre qui va reprendre les quatre premiers, livre pour le grand public et qui va être une synthèse de ces livres. Nous sommes en train de les rédiger. Alors, ce qui va m'intéresser dans ces avancées et ces risques, c'est de voir dans quelle mesure les nanosciences sont un cas d'école. Alors, dans quel sens c'est un cas d'école? Dans quel sens on peut avoir une spécificité nano ou pas? La question peut se poser. Et puis, je parlerai d'avenir avec ce que nous avons proposé dans le cadre du débat national sur les nanosciences. Nous avons fait des propositions concrètes. Donc, syndicats, associations de consommateurs, chercheurs. Et nous espérons tous que ces propositions concrètes que je vous détaillerai vont être reprises. Alors, cas d'école, pourquoi? Eh bien, on va le voir que spécificité nano, je vais vous présenter les avancées et les risques, et puis on pourra en reparler après, dans tout ce qui est dit autour des nanos, que ce soit les problèmes de nanoéthique, les problèmes de nanorisques, les problèmes de nanosociété. Est-ce que si j'enlève le mot nano, en fin de compte, je ne pose pas une question beaucoup plus générale? Et quand des opposants aux nanos s'opposent aux nanos, est-ce qu'ils s'opposent vraiment aux nanos? Ou est-ce qu'en fin de compte, ils posent la question de la gouvernance par rapport aux sciences d'une manière générale, et que, en fin de compte, les nanos arrivent à une époque précise, qui est une époque de convergence, où le citoyen souhaite être responsable des développements, et que, en fin de compte, peut-être les nanos sont le premier cas d'école, et on le verra avec nos livres en particulier, où on voit la physique, la chimie, la biologie avancer à grands pas. Et si nous avons pu faire le quatrième livre dans la foulée des trois premiers, donc ce quatrième livre qui vient de paraître, Nanotoxicologie, c'est parce que les études toxicologiques suivent ce développement. Chose absolument unique dans l'histoire de l'humanité. La toxicologie suit exactement le développement, à quelques années près, bien sûr. On ne peut pas étudier quelque chose qui n'existe pas. L'éthique, c'est pareil. Hein, donc, l'éthique a plutôt été sur la biologie. Tout le monde connaît la CNIL, sur l'information et la liberté. Pour la première fois aussi, il y a une éthique spécifique nano qui apparaît. Donc on voit bien qu'on a une convergence de tout un mouvement de fond sociétal qui n'est pas du tout spécifique aux nanos. Et alors c'est pour ça que les nanos sont un cas d'école, parce que tout converge vers les nanos, et peut-être c'est la première occasion, les nanosciences, pour faire quelque chose de complètement nouveau dans le développement des sciences et des technologies. Hein, c'est-à-dire que le citoyen, au sens très large, que ce soit les associations, que ce soit les syndicats, hein, que ce soit les différentes parties représentatives de la population, les régions, les départements, les collectivités d'une manière générale, puissent être au cœur des décisions qui sont prises. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut parler d'un cas d'école, parce que ça sera peut-être la première fois, si on y réussit, que tous les acteurs seront autour d'une table, comme l'a présenté tout à l'heure la personne de la CFDT qui a parlé des cinq piliers de discussion. Donc c'est en ce sens que peut-être les nanos sont tellement en avant, parce que bon, on est parti sur un titre pour notre cinquième livre qui est « L'aventure des nanosciences », bon, parce que nous sommes de dangereux nanophiles. Donc « L'aventure des nanosciences », deux points, évolution ou révolution. Donc la question peut se poser comme ça, c'est-à-dire que les questions sociétales qu'on se pose actuellement autour des nanosciences peuvent se poser, ont pu se poser dans le passé et peuvent se poser encore sur bien d'autres domaines. Bon, il se trouve que, pour des raisons historiques, c'est sur les nanosciences que ça converge. Alors évolution ou révolution, là aussi la question peut se poser, hein. Si on prend la loi de Moore, hein, qui prédit la densification donc des composants, une loi qui est très ancienne, cette loi est parfaitement respectée depuis une cinquantaine d'années et on arrive aux échelles nano d'après cette loi. Donc où est-ce qu'il y a une révolution? Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de cassure dans la loi de Moore qui montrerait que subitement, à l'échelle nano, on aurait quelque chose d'absolument incroyable qui se passe. On a plus l'impression d'une évolution qu'on pensait impossible, hein, qu'on allait avoir des problèmes thermiques, qu'on allait avoir des problèmes de tout ordre, de réactivité chimique, qui ferait que jamais on ne pourrait arriver à l'échelle nano. Eh bien, on y arrive. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, on a une évolution depuis 50 ans qui tend vers l'échelle nano de manière tout à fait naturelle, sans qu'il y ait de révolution particulière à ce niveau-là. Parce que la question de la spécificité nano va se poser. Par exemple, souvent, et on a pu le voir dans des présentations d'aujourd'hui, on parle de nouvelles propriétés. Alors voilà, les nanosciences, nouvelles propriétés. Alors, nouvelles propriétés. Si vous prenez les propriétés physiques ou chimiques existantes, eh bien, en fin de compte, il n'y a pas de nouvelles propriétés. Par exemple, si vous prenez l'or, qui est le référent absolu de non-réactivité à l'échelle macroscopique, vous enterrez un objet en or, vous le ressortez plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires après, votre objet en or est intact. Il ne réagit pas. Eh bien, à l'échelle nano, l'or est ultra-réactif. Alors, son comportement, donc, est totalement différent. Est-ce que j'ai inventé quelque chose de nouveau ? Non, c'est de la réactivité chimique. C'est de la réactivité chimique qui est multipliée par 100, qui est multipliée par 1000. Hein ? Mais ça n'est pas une propriété nouvelle. Donc on pourrait dire ça aussi pour toutes les nanosciences. Par exemple, l'extraordinaire prix Nobel d'Albert Fert, qui est vraiment une avancée majeure, peut-être l'avancée la plus importante dans les nanosciences, hein, le prix Nobel de 2007 en physique. En quoi consiste cette découverte extraordinaire d'Albert Fert ? Hein, vous savez tous, dans les atomes, vous avez le noyau au milieu, les électrons qui tournent autour. Ça vous fait le magnétisme classique, magnétisme macroscopique. Et puis, l'électron, en tournant autour du noyau, bah, il fait comme la Terre autour du Soleil. Il a un mouvement supplémentaire de rotation sur lui-même qu'on appelle le spin. Alors, il n'y a pas 50 manières de tourner sur soi-même. Vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux spins possibles. Un spin up, un spin down. Et alors, ce qu'a trouvé Albert Fert, c'est que quand on structure à l'échelle nanométrique de la matière, on est capable de jouer sur ce magnétisme ultra fin. Donc il a fabriqué, dans les années 80, des couches nanométriques qui étaient capables d'aller attaquer ce petit magnétisme de spin. Donc c'est ça qu'on appelle la spintronique ou l'électronique de spin, qui lui a valu le prix Nobel. Alors avec ça, on est capable de dévier les électrons qui ont un spin dans un sens d'un côté, les électrons qui ont un spin dans un sens de l'autre côté, et on est capable de filtrer comme ça un courant électronique qui habituellement va tout droit. Donc on est capable de faire des variations de courant ou l'inverse d'une variation de courant, une variation de résistance. Donc c'est ce qu'on appelle la magnétorésistance géante. Et on est capable de fabriquer des créneaux 1 ou 0 avec cette affaire à l'échelle nanométrique. Et donc on est capable de densifier les disques durs, d'avoir des densifications extraordinaires à l'échelle nanométrique des disques durs. Et on est capable d'écrire et de lire à cette échelle nanométrique. Donc c'est une révolution absolue. Tout ce qu'on a pu voir sur l'évolution des micro-ordinateurs, l'évolution des téléphones portables, est indirectement lié à cette découverte. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Le spin, c'est quelque chose de connu. Le magnétisme, c'est quelque chose de connu. Les couches minces, c'est quelque chose de connu. Donc c'est plus une évolution de maîtrise et de contrôle d'une échelle qu'on ne contrôlait pas avant, plutôt qu'une révolution et, comme certains disent, de nouvelles propriétés. Ce ne sont pas des propriétés nouvelles. Ce sont des propriétés existantes qu'on ne pouvait pas voir, mais qui étaient complètement connues de la théorie. Donc je crois qu'il faut regarder cette spécificité nano tout le temps. Hein, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. C'est de se dire... Bon, est-ce que y a une spécificité de ce que je vais regarder ? Si vous prenez l'or, dont j'ai parlé tout à l'heure, alors je prends l'or. Bon, déjà, il devient ultra réactif à petite échelle. Alors, il y a une courbe qui est caractéristique de l'or aussi, c'est celle de la température de fusion, c'est-à-dire quand l'or... est liquide ou est solide. Alors, je vais vous la dessiner. Bon, alors, comment ça marche, cette courbe ? C'est très, très simple. Voilà, alors là, on est à peu près à température ambiante. Là, on est à peu près, je vais parler en degrés Celsius, hein, à 1000 degrés Celsius. Et puis ici, on est dans le domaine micronique, et puis voire macroscopique par là. Et puis ici, on est vers 1 nanomètre. Hein, 10 nanomètres, 1 nanomètre, 10 nanomètres. Alors, dans le temps, on avait l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle des handbooks, qui sont des dictionnaires, où toutes les propriétés physiques et toutes les propriétés chimiques sont tabulées de manière absolue et définitive. La température de fusion de l'or, c'est-à-dire que là, il est solide, au-dessus, il est liquide, eh ben, c'était une constante. Voilà. Donc, quand on était à l'échelle macroscopique, aucun problème, c'est une constante, je vais dans mon dictionnaire, j'ai besoin de travailler sur de l'or, je sais qu'à telle température, il va devenir solide ou liquide. Alors quand on a commencé à travailler sur le nanomètre, on a commencé à faire des particules de plus en plus petites, et au stupeur, on s'est rendu compte que la température de fusion de l'or descendait de manière assez incroyable jusqu'aux températures ambiantes. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire tout simplement que l'or est liquide ici. Là vous êtes dans le domaine liquide ici. Donc vous êtes sur du liquide. Donc vos particules d'or, quand vous les mettez à très très petite échelle, deviennent liquides. Donc l'or ne se comporte plus du tout de la même manière qu'à l'état macroscopique. Bon, vous n'avez pas inventé quelque chose de nouveau pour autant. Un liquide, ça reste un liquide. Hein. Donc c'est pour ça que on ne peut pas parler de nouvelles propriétés, mais de propriétés différentes. Alors qu'est-ce que ça induit ? Bon, vous connaissez tous peut-être le tableau de Mendeleïev. Oui, vous êtes tous plus ou moins de formation scientifique.
Pas forcément.
Alors le tableau de Mendeleïev, c'est une table. Alors Mendeleïev m'excusera si j'écris mal son nom. Ça doit être à peu près comme ça. Donc vers 1860, après la révolution atomique de Lavoisier en France et de Dalton en Angleterre, vers 1800, donc la redécouverte de la notion d'atome après Démocrite, 2000 ans avant, tout le monde s'est mis à vouloir faire des corps purs et à isoler ces atomes. Hein. Donc on a fini par faire tous les composants qui existent sur Terre de manière pure, et on a fait un tableau comme ça où on a classé l'hydrogène, l'hélium, le carbone, le silicium, etc. Et puis, quand on va dans tous les laboratoires du monde, parce que des tableaux comme ça, dans tous les labos du monde, c'est la référence absolue, on a des petits chiffres dans les coins, ici, là, un peu partout, qui expriment justement les grandeurs intangibles, invariables de ces composés. À savoir, la température de fusion de l'or, c'est 1000 degrés C, 1300 degrés K. Eh bien, ça veut dire quoi, le domaine nano ? Vous n'inventez pas particulièrement des propriétés nouvelles, inconnues, mais vous pouvez oublier le tableau de Mendeleïev. C'est-à-dire que si vous êtes un travailleur à l'échelle nanométrique, vous devez inventer un nouveau tableau de Mendeleïev. Alors ça, c'est quelque chose de totalement passionnant et puis d'inquiétant aussi. Hein, parce que quand vous faites des composés à très très petite échelle nano, vous ne savez pas forcément s'ils sont liquides, s'ils sont solides, quelle structure cristalline ils ont. Les structures cristallines changent complètement quand vous êtes à très très petite échelle. Donc vous êtes obligé, c'est un autre monde. C'est un autre monde avec toujours les mêmes propriétés physiques, chimiques, de réactivité, etc. Mais là, vous étiez dans un monde parfaitement connu, stable, que vous maîtrisiez. Là, vous ne maîtrisez plus rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est quelque part révolutionnaire, hein, dans ce sens que si vous êtes un spécialiste des nanosciences, vous devez tout refaire. Si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment contrôler ce que vous faites à l'échelle nanométrique, vous êtes obligé de refaire toutes les grandeurs physiques, toutes les grandeurs chimiques pour savoir comment va se comporter votre composé. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental et qui est vraiment de l'ordre de la spécificité nano, hein, c'est-à-dire les grandeurs au sens fondamental de la science ne sont pas changées, mais elles sont ordonnées de manière complètement différente dans le tableau de Mendeleïev. Et si j'attends des propriétés physiques, des propriétés chimiques en interaction avec la biologie, ben il faut que je sois un véritable spécialiste de ce domaine nano pour pouvoir dire des choses qui tiennent la route. Hein, donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, bon, hein, en physique, évidemment, la grande application, j'en ai parlé, c'est tout ce qui tourne autour de la nanoélectronique. Hein. On va petit à petit vers une nanoélectronique à un électron, c'est ça qu'on veut faire. Hein, plutôt que d'avoir des milliards d'électrons qui racontent tous la même chose, on voudrait bien aller vers une nanoélectronique à un électron où on serait au stade ultime de la matière pour porter de l'information. Alors ça, c'est la grande affaire de la physique, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la nanoélectronique. Une autre affaire de la physique qui est entre la physique et la chimie, c'est tout ce qui tourne autour de la mécanique. Hein, donc là, on va avoir beaucoup, beaucoup d'applications qui vont être dans les outils de coupe, par exemple, dans les outils de coupe, dans les moteurs d'avion, pour avoir des composés qui tiennent mieux en température. Hein. Donc on arrive aussi vers quelque chose qui n'est pas forcément révolutionnaire à ce niveau-là, ce qui est ce qu'on appelle les matériaux multifonctionnels. Alors, multifonctionnel, c'est-à-dire que vous allez vouloir, par rapport à un matériau classique, qu'il ait des propriétés thermiques renforcées, donc on va vers des renforcements de propriétés, qu'il ait aussi en même temps des propriétés mécaniques, qu'il ait aussi en même temps des propriétés soit d'isolant, soit de conducteur, donc c'est ça qu'on veut faire, soit sous forme de couches multifonctionnelles, soit sous forme de composites, et ça aussi, les composites, ça existe depuis 30 ans. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, on le fait juste à une échelle différente. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait en mécanique assez couramment. Pour la chimie, tout ce qui est d'une évolution vraiment très importante du domaine nano, c'est tout ce qui va concerner la catalyse. Hein. Donc, comme je parlais de l'or qui devient réactif, non seulement l'or devient réactif, il devient réactif par exemple au monoxyde de carbone, qui est un composé mortel. Donc, il peut absorber le monoxyde de carbone, il absorbe de l'oxygène et il rejette du CO2 qui peut être filtré de manière classique. Donc, vous prenez des petites particules d'or et vous avez quelque chose qui vous détecte la présence de monoxyde de carbone, le transforme en CO2 et permet de le filtrer derrière. Donc, ça, c'est tout ce qui tourne autour des capteurs, hein, de particules. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal pour l'environnement. Hein, on peut imaginer avoir des capteurs environnementaux dans les villes, à la campagne, pour détecter des molécules à très très petite échelle. Hein, c'est ça qu'on veut faire en finale. Le fait de travailler à l'échelle nano, c'est de pouvoir détecter aussi des petites quantités, hein, d'avoir des niveaux d'alerte les plus bas possibles sur des pollutions potentielles. Donc ça aussi, c'est la grande affaire de la chimie, c'est tout ce qui tourne autour de ces capteurs. Alors pour la biologie, vous avez vu des exposés déjà, et notamment aujourd'hui, sur tout ce qui tourne autour de la nanomédecine. Hein, donc quand on parle de matériaux multifonctionnels, il y a aussi cette idée, donc comme vous l'avez vu ce matin, je prends une nanoparticule, je lui mets des petits cheveux pour qu'elle ne soit pas mangée par les macrophages. Je lui mets des petites molécules, hein, parce que dans les cellules qui sont microniques, les cellules vivantes, vous avez toujours des nanopores. Hein, vous avez donc il y a la membrane de la cellule et vous avez des nanopores. Alors évidemment, ça permet à la cellule de communiquer avec l'extérieur. Et au bord de ces nanopores, vous avez des molécules qui interdisent ou permettent l'accès. Donc c'est comme ça qu'on fait la vectorisation, hein, c'est-à-dire qu'on prend nos petites nanoparticules, on met des petits cheveux pour qu'elles ne soient pas mangées, et puis on met des petites clés de reconnaissance au bout pour qu'elles aillent à l'intérieur de la cellule. Alors c'est un procédé révolutionnaire. Les virus font exactement la même chose. Les virus sont à l'échelle, comme le disait la personne ce matin, 10 nanomètres, 100 nanomètres. Les virus fonctionnent exactement pareil. S'ils ne peuvent pas rentrer dans la cellule, ils vont copier la clé et l'année d'après, ils vont rentrer. Donc vous êtes sans arrêt obligé de changer les vaccins que vous faites contre la grippe. Parce que le virus, l'année d'après, il est capable de rentrer. Alors, bon, c'est une avancée extraordinaire. Hein. Si vous prenez des cellules cancéreuses, vous venez soigner la cellule. Alors, ça marche parfaitement en laboratoire, sur des souris de laboratoire, sur des leucémies disséminées. Hein, donc, ça, on ne peut pas opérer. Hein, on n'a pas une tumeur localisée. Donc on envoie ces médicaments qui vont cibler les cellules cancéreuses disséminées et les cellules sont soignées. Alors ça marche sur les souris de laboratoire depuis 2 ans. Une personne a été souvent citée ce matin dans ce papier, justement, c'était Monsieur Patrick Couvreur. Hein, donc c'est vraiment le père de ces objets de première génération, deuxième génération, troisième génération. Il y a des papiers de 89 sur la première génération et puis des papiers de 90 et 2000 sur les deuxième et troisième générations. Donc c'est en essai clinique sur l'homme actuellement. Donc il faudra peut-être une dizaine d'années avant de montrer que ça fonctionne sur l'homme et que il n'y a pas d'effet secondaire qui contre-indique ce médicament. Donc ça, c'est une chose. Bon, là, on vient mettre un médicament pour soigner la cellule. Il y a une autre méthode, et on le fait pour les tumeurs cérébrales dans le cerveau. On a le même processus ici avec la petite nanoparticule, sauf qu'au lieu de contenir un médicament, elle est métallique. Avec une micropipette, on injecte dans le cerveau ces nanoparticules, donc avec un petit cœur métallique, elles vont cibler les cellules cancéreuses, elles rentrent à l'intérieur, et une fois qu'elles sont dedans, on applique un champ magnétique et on fait vibrer les petites molécules qui sont dans les cellules cancéreuses. Donc il y a un échauffement local, très très localisé, uniquement dans la cellule ici, qui est intéressée par la nanoparticule métallique, et les cellules cancéreuses ne supportent pas une élévation de température locale, et donc elles meurent. Donc ici, on ne soigne pas, on détruit. Et ça fonctionne sur l'homme actuellement dans quelques laboratoires à travers le monde. Hein. Donc évidemment, ça, c'est des avancées phénoménales. Hein. Que ça soit l'avancée sur tout ce qui est micro-ordinateur, téléphone portable, etc. Je pense que ce sont des avancées dont on profite tous. Tout ce qui concerne les capteurs et la filtration, aller vers un environnement plus sain, c'est aussi quelque chose dont on profite tous. Ça, certainement, dans une dizaine d'années, bon, pour les tumeurs cérébrales, c'est déjà en cours, pour les tumeurs, les leucémies diffusées, peut-être dans 10 ans, on en profitera aussi. Donc ça, c'est des avancées absolument phénoménal. Donc, je vous cite les 3 plus grandes avancées en physique, en chimie, en biologie, hein, mais on peut en attendre, bien sûr, bien d'autres. Alors, bien sûr, ça, c'est bon, moi, je suis nanophile, donc... Donc, c'est sûr que ce sont des progrès extraordinaires. Alors, quand on a démarré la série de livres... Hein, nanophysique, nanochimie, nanobiologie. Bon, on devait en faire un seul au début, puis ça nous a pris d'en faire 3. Et il est apparu évident que si on voulait être sérieux, on ne pouvait pas s'arrêter à ces 3 livres et qu'il fallait forcément parler de nanotoxicologie. Notre but était, comme l'a montré Sylvie Retailleau tout à l'heure, c'est si on veut faire des formations nanosciences, mais même au-delà des nanosciences, hein, peut-être justement, les nanosciences seront le premier cas d'école où dans les formations, on pourra introduire de la nanotoxicologie, de la nanoéthique, mais il faudrait l'introduire dans absolument toutes les formations, hein, qu'un ingénieur, physicien, chimiste, biologiste, ait des notions de toxicité et d'éthique, bien sûr, ça semble évident. C'est pour ça que les nanosciences sont peut-être le premier cas dans l'histoire de l'humanité où on va parler justement de tout. Les risques, parce que toute activité humaine a un risque. Hein. Donc, monsieur, vous citiez le couteau. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est avec n'importe quel objet, on peut faire des dégâts. L'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est des progrès permanents. Et puis, l'important, c'est de contrôler et de maîtriser ces choses. Hein. Alors, on a l'avantage en France d'avoir des chercheurs, bon, un peu comme dans toutes les sciences fondamentales, hein. La France est à la pointe de toutes les sciences fondamentales, donc elle est aussi à la pointe de la toxicologie. Il y a très très peu de livres, ça se compte à l'unité, les livres nanotoxicologie dans le monde. Il y en a un qui a été fait en anglais par un Français, par M. Bottero d'Aix-en-Provence. Et donc les Français sont à la pointe de ce qui se fait en nanotechnologie. Hein, donc vous le verrez dans le livre, Mme Marano de, de Paris 7 et monsieur de Bottero d'Aix-en-Provence, qui parle de nanotoxicologie humaine et nanotoxicologie environnementale. Hein, parce que, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est toujours pareil. Quelle est la spécificité nano? Parce que ce qu'on sait pour l'instant, c'est sûr, c'est que on a une réponse plus rapide à une inflammation. Si vous prenez une cellule, vous la mettez en contact avec des nanoparticules, l'oxydation de la cellule va être beaucoup plus rapide avec des nanoparticules qu'avec des particules plus grandes. Et puis, une inflammation plus élevée. Hein, c'est des courbes qui ont été montrées ce matin, c'est-à-dire si vous prenez une inflammation classique avec des particules microniques, quand vous prenez une particule nanométrique, ça démarre beaucoup plus vite et ça va beaucoup plus haut. Après, c'est stable. Donc ça, c'est clair. Hein. Il y a une réponse toxicologique. Alors, c'est toujours pareil. C'est j'invente pas une nouvelle toxicologie. J'invente pas des processus a priori différents. Sauf qu'ils sont beaucoup plus rapides et avec une toxicologie beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, grave. Alors, si on regarde sur l'environnement, on va avoir le même genre de choses que sur des composés chimiques comme le mercure, par exemple. Si vous prenez des composés, des nanoparticules, vous les mettez dans l'eau où il y a des petits animaux, des micro-organismes qui vont ingérer ces nanoparticules, qui ne vont pas s'en défaire, ils ne vont pas avoir cette capacité à s'en défaire. Donc des organismes un peu plus gros vont les manger, les poissons vont les manger, etc. Donc on retrouve les mêmes processus que dans le cas du mercure, par exemple. Donc toute la chaîne alimentaire va être concernée par le fait que ces nanoparticules ne disparaissent jamais. Hein. Donc vous le verrez dans le livre aussi, on voit des petits animaux microscopiques ou millimétriques dont l'estomac est bourré de nanoparticules. Hein. Donc ça, on sait qu'on a les mêmes problèmes avec les produits chimiques polluants habituels. Et puis, donc on a ces réponses ici plus rapides, plus élevées et une toxicologie qu'on retrouve comme ça. Alors effectivement, ça a été cité ce matin, je pense, sur... Bon, si vous prenez les nanoparticules, ça existe comment? Alors ça existe depuis la nuit des temps, hein. C'est ce qu'on disait, c'est que c'est ça qui est bien dans le nanomonde. Voilà, ça existe naturellement sous deux formes. C'est-à-dire une forme naturelle de 1 nanomètre. Vous avez des particules qui ont un rayon de 1 nanomètre. Alors évidemment, c'est très très dur d'avoir des nanoparticules toutes seules parce qu'elles sont ultra réactives. En général, elles se collent les unes les autres et très rapidement. Donc celles-là, c'est celles qui sont non réactives. Ça peut être des oxydes, par exemple, qui sont déjà saturés. Et puis celles qui sont, si vous prenez du cuivre pur, il pense qu'il y a une chose, c'est à se coller avec d'autres cuivres, avec d'autres choses. Donc vous avez un deuxième pic ici, où vous avez agrégation de nanoparticules qui finissent par s'oxyder et puis qui finissent par exister en tant qu'elles-mêmes juste en dessous du micron. Alors jusqu'à maintenant, on était incapable de voir ce genre de pic. Donc tous les filtres, ils filtrent jusqu'ici. C'est-à-dire si vous prenez un filtre HDI sur les voitures diesel, il filtre jusqu'ici, donc il filtre ce pic des grosses particules ultra fines, si vous me permettez. Donc, mais il ne filtre certainement pas ce pic-là. Vous pouvez toujours mettre, comme dans la publicité, un mouchoir à la sortie d'un pot d'échappement, il paraît tout blanc parce que ça, c'est pas visible à l'œil. Donc, c'est facile, la publicité. Donc, ça, c'est très, très difficile de voir ce pic-là et de pouvoir quantifier ce pic-là. Alors, ça existe. Un volcan, il vous envoie ça par milliards de tonnes. Donc, ce que va faire l'homme par rapport à la nature, c'est de rajouter des particules comme ça, éventuellement, et notamment des particules synthétiques. Hein, donc ça va être un problème. Alors, les particules classiques amènent à des... Les particules plus classiques, disons, amènent à des cancers du poumon, par exemple, parce que ces particules sont arrêtées par les bronches et donc fabriquent le cancer du poumon éventuellement. Ces particules-là traversent les bronches, vont jusqu'au bronchiol et vont dans le sang. Ça va dans le foie, ça va dans les reins, ça va dans le cœur et ça finit dans le cerveau. Donc ces petites particules, certains disent qu'effectivement, amènent à la maladie de Parkinson, hein, par agrégation le long des neurones, et puis les plaques se figent sur ces nanoparticules, s'implantent sur les nanoparticules et ça écrase le neurone, ce qui expliquerait la maladie de Parkinson. Hein. Alors, bon, ça c'est effectivement quelque chose qui n'était pas observé jusqu'à maintenant. La spécificité nano ici, c'est que comme dans le cas de j'envoie une petite nanoparticule pour pénétrer dans les cellules, le cerveau est protégé par une membrane avec des nanopores toujours, et donc les particules peuvent être directement inhalées, hein. Elles peuvent passer direct dans le sang ou elles peuvent être inhalées en direct en passant la barrière cervicale. Hein, donc ça c'est quelque chose de spécifique, de vraiment spécifique nano. Alors sur les problèmes sociétaux, donc ça c'est des problèmes de risque physiologique. Hein. Sur les problèmes sociétaux, alors on parle de perte de liberté. Parce qu'on peut être implanté, hein, donc on développe des objets, comme ont été présentés là, aujourd'hui, des objets qui sont plutôt millimétriques, voire centimétriques, avec éventuellement une technologie nanométrique à l'intérieur. On développe des radio frequency identification detection, qui sont pas du tout nanométriques. Donc tous ces objets sont pas nanométriques. Vous êtes capable de suivre quelqu'un à la trace si vous lui injectez une puce RFID sans difficulté. Hein. Donc la question que va poser les nanos, c'est quand même une question qu'on aurait déjà dû se poser depuis longtemps sur ce genre d'objet. Donc c'est quand même l'avantage des nanos, c'est pour ça qu'il y a une convergence sur les nanosciences, de problèmes qui n'ont pas été résolus avant. Et c'est là que c'est intéressant les nanosciences, parce que si c'est un cas d'école qui permet de démarrer une responsabilité citoyenne et une responsabilité des sociétés, bah tant mieux, allons-y. Hein, donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, le transhumanisme, dont on a parlé déjà, hein. Donc la question est de savoir jusqu'où on va. Hein. Bon, moi, je suis déjà appareillé, hein, comme beaucoup d'ailleurs. C'est pas l'échelle nano. Hein. Mais bon... Je pense qu'on est tous très contents, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, d'avoir un pacemaker, quelqu'un qui a des problèmes de hanche, d'avoir des implants en titane. J'ai des plombages aussi. Donc on est tous appareillés. Hein, alors la question de savoir, c'est on s'arrête où, hein, on s'arrête où dans l'appareillage, on va jusqu'où, jusqu'à quelle échelle, quelqu'un qui est aveugle qui a des problèmes de cataracte très graves, je lui redonne la vue. Un diabétique qui ne maîtrise pas ses crises, je lui mets un implant et il peut vivre. Donc la question, elle est très très importante et c'est une question qui doit être débattue dans le fond. Et peut-être justement les nanosciences sont là pour vraiment parler de cette chose, parce que le transhumanisme, à la limite, oui, depuis la nuit des temps, depuis... comme disait monsieur avec l'exemple du couteau ou de la pierre taillée. Hein. Donc l'être humain a démarré avec des outils comme ça, qui sont des outils qui sont extérieurs à nous, on peut les poser. Quoi. La question maintenant, bon, on a quand même de plus en plus d'implants, la question c'est jusqu'où on va dans l'implantation. Donc ça c'est une véritable question qui n'est pas une question nano. Hein. Donc la spécificité nano là-dedans... je dirais qu'à la limite, elle arrive bien après s'être posée cette question-là. Hein. Parce qu'on pourra aller plus loin, parce que ceci, parce que cela, mais bon, c'est pas forcément une question spécifiquement nano. Alors ce que je voulais dire En conclusion, hein, sur ces histoires donc de cas d'école, ça, moi, j'y peux rien. Moi, j'ai été élevé en 1982, quand j'ai fini ma thèse, démarré un programme au CNRS qui s'appelait Multicouche à l'échelle de Langström. Et donc, ça s'appelait pas Nano, mais c'était le premier programme CNRS, Nano, sans avoir ce nom. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière Nano. Donc, moi, je suis très content que les nanos servent de cas d'école, si ça peut l'être, pour une évolution de la société. Le monsieur de la CFDT était très critique vis-à-vis de ses collègues européens. Bon, la France a inventé les droits de l'homme. Elle a le droit d'inventer l'éthique appliquée aux sciences. Elle a le droit d'inventer le débat public. Elle a le droit d'inventer quelque chose qui sera une déontologie que l'ensemble de la planète reprendra. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 150 ans après la Déclaration française des droits de l'homme. Donc, rendez-vous dans 150 ans hein, pour voir si tout le monde fera de l'éthique qui sera bien au-delà des nanosciences, j'espère, qu'on appliquera à tous les domaines. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le débat nano ? Parce que les personnes qui sont des opposants, ils posent des bonnes questions. Ils posent des questions de gouvernance, ils posent des questions de citoyens, qui est-ce qui décide de quoi, etc. Alors toujours nano, nano, nano. Bon, moi, je leur dirais juste de... Bon, ils sont à Grenoble, ils vivent au milieu des nanos, donc c'est le bon cas d'école de se dire je prends les nanos comme support. Mais en fin de compte, bon, j'ai dû faire une centaine de séminaires nanos à travers la France depuis 4 ans. Je n'ai jamais été inquiété. Ça a toujours été, on a été reçus comme des rois, comme ici. Donc ça s'est toujours très très bien passé, sauf la fois où j'ai été invité au débat nano national à Orsay et qu'on a été obligé de se rapatrier dans un nouveau hôtel pour faire notre débat entre spécialistes. Donc, en fin de compte, les gens, les opposants, ne s'opposent pas aux nanos. Ils n'ont jamais empêché le débat public nano géré par les collectivités, les associations, les régions, les départements. Enfin, je sais pas moi, 1% d'erreurs, c'est peu significatif qu'ils soient accrochés au domaine nano. Ils sont accrochés dès que c'est l'État qui met en place. Donc c'est plus un problème fondamental de gouvernance et de citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'il est sorti du débat nano pour nous ? On s'est retrouvé autour d'une table à la conclusion avec des collègues des syndicats. Alors c'était pas cette personne, c'était son collègue de la CGT qui n'a pas pu venir. Mais comme il travaille main dans la main. Donc on avait des syndicalistes, des gens des associations, José Cambou. Voilà, qui devait venir aussi, qui a écrit dans les livres. Et puis des scientifiques, on était peu, on était 10 autour de la table. Alors, on a vraiment réfléchi à comment aller plus loin et quelles étaient les spécificités qui permettraient un développement et qui permettraient, il y a le directeur de l'ADN, il était parti de l'école de l'ADN d'ici, qui disait ça tout à l'heure.
Il est au fond. Laurent. Voilà.
Ah oui, non, c'était votre collègue.
Le président.
Ah, le président. Voilà. Et il disait qu'il fallait pas s'empêcher de chercher, d'évoluer, de se poser des questions, etc. Et moi, je trouve que c'est crucial. Il faut aller de l'avant, il faut être novateur. Donc, certaines personnes ont dit si l'Europe y va pas, est-ce que la France faut qu'elle y aille, etc. Mais bien sûr. Donc, on avait proposé la création d'un centre indépendant. De physico-chimie nano. Donc des personnes qu'on vient voir, qu'on soit une association, qu'on soit un industriel, qu'on soit une collectivité, on vient les voir pour savoir est-ce qu'il y a des nanos dans l'objet, en quelle quantité, de quelle taille, de quelle nature, etc. etc. Un peu une espèce, ils ne voulaient pas qu'on le dise comme ça, mais de CRIRAD nano. Un centre de toxicologie, pareil. Nanotoxico. Hein, comme on disait tout à l'heure, le monsieur du syndicat, il a raison, c'est pas 3%, c'est 1% par an. Et il faudrait aller à 3%. Donc l'idée serait d'avoir un véritable centre de nanotoxicologie, indépendant aussi, qui puisse répondre à toutes les questions. Éventuellement, on n'amène pas un objet, mais on peut amener une substance. Est-ce qu'elle va être nanotoxicologique ? Et le nerf de la guerre, c'est un centre de nanométrologie. Parce que c'est pas facile de mesurer les nanos, c'est pas facile de mesurer la quantité quand il y en a peu, c'est pas facile de les mesurer quand elles sont petites. Donc l'idée, c'était d'avoir ces trois centres. Le centre de nanométrologie alimentant les centres de physico-chimie et le centre de toxicologie en appareils, de telle façon à être capable de mesurer des quantités infimes dans des tailles très petites. Ce système étant, bien sûr, toute personne peut, que ce soit un laboratoire, un industriel, une association, venir demander à ce qu'un composé soit analysé, que la toxicologie soit mesurée, hein, de telle façon à ce qu'on ait une réponse vis-à-vis de la société civile et aussi des industriels. Hein, à savoir que, bon, REACH, c'est quelque chose d'extraordinaire, REACH. Alors peut-être les grands groupes seront capables de développer eux-mêmes en interne des labos de toxico, mais ce n'est pas évident du tout. Donc si on ne développe pas quelque chose pour les petites entreprises, par exemple, qui n'auraient pas les moyens, bah, on sait comment ça se termine en général. Hein. Quand quelqu'un a un produit très innovant et qu'il n'a pas les moyens pour aller voir la toxicité, il va quand même le produire. Hein. Donc on sait la nature humaine quand même, hein, faut pas être aveugle. Donc REACH qui va vers les nanos ne peut être fait, hein, si mes souvenirs sont bons, REACH c'est 2007, pour 11 ans. Ouais.
La mise en œuvre.
Voilà, hein, donc on peut avoir à partir du démarrage de REACH, qui n'est pas nano, une dizaine d'années pour... ici, analyser, vérifier quelles seraient les quantités de quels composés qui seraient à mettre sur une REACH nano. Hein. Donc, ça nous amènerait à un ensemble d'informations pour la société civile ou les industriels, et puis, comme il a été cité cet après-midi, de formation aussi. Des informations et de la formation. Alors ça, c'est une chance unique pour la France d'être le moteur du monde. Elle l'a été sur les droits de l'homme, elle a le droit de l'être sur l'éthique nano, elle a le droit de l'être sur « je deviens quelqu'un de responsable ». Donc ça, on l'a proposé. Hein. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que ça n'a pas été retenu. Pourtant, c'était les syndicats, les associations, les scientifiques qui étaient autour de la table. Hein. Donc tout ça avec un comité d'éthique tout en haut. Hein. Et inévitablement, les industriels vont forcément être intéressés par une structure comme ça, et puis on pourra dupliquer à travers l'Europe, notamment, qui est intéressée par REACH, ce genre de structure. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas attendre l'amiante, les OGM, le nucléaire, tous les problèmes qu'il y a eu pendant le XXe siècle. On a la chance inouïe, avec les nanosciences comme cas d'école, de démarrer quelque chose proprement. Donc, il me semble qu'il serait quand même d'actualité de faire ce genre de choses. Voilà, donc, un petit survol des nanosciences, des avancées, des risques. Et je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout de nous laisser avec cette idée et de nous avoir, je pense, remonté le moral en disant que la France pouvait être motrice, alors qu'on a plutôt tendance à dire on est petit, etc., on doit s'écraser par rapport aux autres. Merci beaucoup. Ce message optimiste me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, ça, c'est un peu éparpillé.
Est-ce que tout le monde est optimiste dans la salle? Oui. Non, alors je vais faire la pessimiste service.
Ah non.
Ben, c'est une tendance des juristes, j'assume. Non, non, je trouve l'idée très bonne. Simplement, contrairement à ce que tu espères, Philippe, je ne pense pas que ça va attirer énormément les industriels. Pourquoi ? Parce que les industriels qu'on entend dans le lobbying à l'heure actuelle sur les nanos, ce sont les gros industriels. Ceux qui peuvent satisfaire aux exigences de REACH, y compris lorsqu'on l'aura adapté aux spécificités des nanos, et qui espèrent, en appelant à davantage de réglementation sous REACH, éliminer leurs petits concurrents. C'est aussi terrible et pragmatique que ça. C'est la réalité. Hein. Quand on discute avec Arkema, par exemple, ils ont tout un tas de PME dans les pattes là, qui les gênent. Hein. Et ils appellent à davantage de réglementation pour tuer cette concurrence-là. Donc, à mon avis, eux, ils ne seront pas du tout tentés que tu offres à leurs concurrents un tiers secteur scientifique qui soit à la fois économique, valable et scientifiquement performant.
C'est pas fait que pour les industriels.
Le micro, pour l'enregistrement.
Donc, cette structure est faite comme un élément d'information et de formation pour l'ensemble des acteurs de la société, industriels compris. Pourquoi j'ai cité les industriels ? Parce que des personnes autour de la table ont dit on ne va quand même pas payer pour les industriels. Donc j'ai été obligé d'intervenir sur cette remarque qui me semble totalement irresponsable, à savoir que si un industriel n'a pas les moyens, il mettra le produit sur le marché, quoi qu'il se passe. Donc, on l'a vu avec l'amiante sans aucune difficulté. Donc la question, elle est bien de faire en sorte que aussi bien la société civile, que ce soit les associations de consommateurs, que ce soit les collectivités d'une manière générale, ou les industriels qui n'auraient pas forcément les moyens, puissent le faire. Mais ça n'est pas quelque chose qui est fondamentalement centré sur les industriels. Il va y avoir une difficulté quand même avec REACH. C'est que beaucoup d'industriels vont être obligés d'aller vers des structures comme ça. Alors, faire ce genre de choses, un centre de nanométrologie, de la physico-chimie, de la toxico, ça veut dire aller à l'envers exact de ces 30 dernières années, c'est-à-dire la diminution drastique, notamment en France et en Europe, des laboratoires de recherche industrielle. Donc moi, je veux bien qu'on revienne à il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, on était dans la fin des 30 glorieuses. Donc tous les industriels avaient des très gros laboratoires de recherche. On n'est pas du tout dans cette phase-là. Donc je pense qu'une structure comme ça permettra pour les 30 ans à venir de fonctionner.
Oui, je voudrais moi aussi apporter quelques réflexions, peut-être un petit peu nuancées par rapport aux propos du jour. Ma première réflexion, vous l'avez évoquée à propos du grand débat public, c'était sur l'idée de l'urgence. Est-ce qu'il était urgent, fin 2009, de lancer ce débat public ? Eh bien, moi j'ai envie de dire, cette urgence, elle existe depuis 20 ou 30 ans. Depuis 20 ou 30 ans. Et finalement, à quoi a servi ce débat public ? À tenter de faire entériner par la société des décisions qui avaient été prises bien en amont. Faut-il rappeler qu'à Grenoble, par exemple, dès 1998, le CEA se lançait dans la construction de Minatech et avant le CEA, bien d'autres. Donc ce grand débat public, à mon avis, n'a été qu'une mascarade pour, comme dans d'autres sujets, essayer de faire croire qu'on allait associer la population à des débats, alors qu'en réalité, dans le débat public, dès le début, il était dit que le débat ne devait porter que sur quelques généralités sur les nanosciences et nullement sur la pertinence, notamment la pertinence scientifique ou la pertinence sociale. Deuxième réflexion, qui trouve-t-on derrière les nanotechnologies ? Évidemment, on trouve des scientifiques en blouse blanche, mais pas que cela. On trouve bien évidemment les grandes firmes et on trouve notamment les grandes armées. En France et en Europe, l'un des plus puissants secteurs de recherche en nano, c'est la DGA, Délégation Générale à l'Armement. et qui fabriquent, entre autres avec leurs homologues, notamment américains, tout ce qui est dans le domaine de nano-armement, notamment des nanodrones de plus en plus minuscules. Et aujourd'hui, qui les expérimente ? Eh bien, c'est notamment la population de Gaza. Troisième réflexion, combien y a-t-il de produits en France qui contiennent des nanocomposants ? D'après l'AFSET, il y aurait 2000 nanoparticules manufacturées. L'AFSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui s'est associée avec l'AFSA dans une nouvelle structure. Mais ce sont que des estimations. On n'a absolument aucune certitude sur ce nombre, puisque précisément, il n'y a pas d'obligation, et que précisément, REACH a été tellement réduit par le lobby chimique, et d'autre part, REACH ne s'applique qu'à un tonnage autour de 10 tonnes. Autrement dit, pratiquement, tous les fabricants de nano, ou en tout cas fabricants de produits qui contiennent des nanocomposants, n'ont aucune obligation. Et on s'aperçoit, particulièrement en France, que la plupart des entreprises ne communiquent pas là-dessus. Il y a eu une étude très officielle de l'AFSET, qui n'est pas un organisme gauchiste ou comme ceux que vous avez évoqués qui auraient perturbé le débat public. Organisme très officiel qui a fait une enquête en 2008. Il n'y a qu'une entreprise sur six dont l'AFSET pensait qu'elle utilisait vraisemblablement des nanocomposants, une sur six qui a accepté de répondre. Autrement dit, on voit dans ces nanosciences la même opacité qu'il y a eu sur l'amiante, sur les OGM ou sur le nucléaire. Enfin, une dernière réflexion qu'on a un peu tendance à oublier, ce sont les salariés, à savoir ceux qui travaillent dans les entreprises où on va manipuler ces nanocomposants. Et là encore, les rares études menées par l'INRS ou le comité de la précaution et de la prévention déplorent la très faible étude. Faut-il rappeler qu'au niveau mondial, en 2007, on a évalué à 0,4% sur l'ensemble des budgets nano la part qui est revenue à l'étude des risques sanitaires et environnementaux. Et donc, finalement, et ce sera mon mot de la fin, je crois que les nanos, les OGM, le nucléaire, eh bien, nous sommes embarqués dans une logique de scientisme et de productivisme qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose à voir avec la science. Quand je dis ça, je veux parler, bien évidemment, de ce qui est en plein champ. Je ne parle pas des travaux laboratoires. Évidemment que les organismes génétiquement modifiés, les bactéries qui produisent de l'insuline, c'est formidable pour les diabétiques. Mais ce n'est pas à cela qu'on s'oppose. C'est à ce qui est en plein champ. Et je crois que là, il y a une avancée considérable dans un productivisme qui, à mon avis, n'est pas de bon augure pour les décennies à venir.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, ce que j'ai voulu exprimer ici, c'est... Moi, je n'aurais pas fait le débat nano comme ça. J'aurais plutôt fait quelque chose de beaucoup plus honnête, c'est-à-dire de réfléchir avec des spécialistes, les syndicats, les associations, sur des structures, des procédures, et après présenter, en accord avec les associations, les syndicalistes, les scientifiques, cette procédure dans des débats publics pour qu'on puisse débattre sur quelque chose de concret. Alors que là, c'était on débat sur les nanosciences, on ne sait pas quelle est la question et on espère peut-être qu'éventuellement, il n'y aura pas de réponse. Alors moi, ce que je vous donne ici, c'est un panel de ce qu'on aurait voulu voir justement qui permet à toute la société civile d'aller poser des questions à des centres indépendants pour, d'ici quelques temps, faire tendre REACH vers des produits nano, parce que vous avez raison. La question de la toxicité, c'est toujours une question de dose. Donc effectivement, on peut être sur des doses, des productions d'une tonne, qui peuvent être extrêmement toxiques. Donc effectivement, il y aura peut-être là une spécificité nano dont il faudra tenir compte. Donc nous, c'était notre idée, c'était de ne pas perdre de temps et de faire en sorte qu'on puisse aller vers un REACH nano dans le meilleur des cas. Alors, ce que vous citez sur les militaires, alors pareil, on est toujours sur cette convergence nano, mais ça n'est pas spécifique aux nano. Ça a toujours été comme ça dans tous les domaines. Donc, la recherche démarre par des recherches, l'application sur des applications militaires, et après ça descend vers le grand public. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé comme ça. Donc ça nous renvoie à une question fondamentale de société qui n'est pas spécifique aux nanos. Mais c'est peut-être l'occasion justement d'en débattre. Hein. Les nanos peuvent permettre ça, certainement.
Oui, une réaction.
Oui, juste pour montrer que les juristes ne sont pas que pessimistes. Je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait qu'on est dans un cas d'école. Et je l'attribuerai au moins en partie au fait que, contrairement au nucléaire, contrairement aux nouvelles technologies d'information et de la communication, y compris contrairement aux biotech, les nanos se développent, sont en train de se développer à une époque où, ça y est, on a pleinement pris conscience, et en France constitutionnalisé, le principe de précaution. Avec bien des critiques, toujours aussi fortes, hein, mais il est là. Et clairement, ce principe de précaution, il implique, de la part des pouvoirs publics, un certain nombre de changements dans leur manière d'aborder les questions. On peut regretter que ces changements ne soient pas aussi considérables que ce qu'on pourrait espérer. Hein. Il implique aussi de prendre en compte davantage les besoins et les attentes et les critiques du public. Au travers de ce principe, on cristallise un certain nombre des questions qui font que la question des nanos, c'est un cas d'école. La même question n'aurait peut-être pas été un cas d'école il y a 20 ans.
Oui, moi je voudrais rajouter une couche à ce que tu viens de dire, effectivement. On n'a jamais vu autant de rapports que depuis 2 ou 3 ans sur les nanos provenant de toutes sortes d'instances. Il y a encore 3 mois, le Conseil national des consommateurs vient de sortir. Des rapports d'associations, des rapports de spécialistes de la communication qui ont analysé justement la com des boîtes. Il y avait encore une page entière du Monde sur les nanotubes et Arkema pour dire que Arkema essaye d'être transparent, de jouer le jeu. Ils vont passer quand même à 400 tonnes de production. Donc c'est une tonne la limite pour Rich, mais ils vont. On va dépasser ça.
10.
C'est
10.
Une tonne. Je pense qu'effectivement, je n'ai jamais vu de situation où les études de toxicologie, comme c'était dit, suivent d'aussi près les nouveaux produits. Ce principe de précaution, effectivement, il tire la leçon de ce qui s'est passé pour l'amiante, Bhopal, le sang contaminé, la vache folle, Tchernobyl. Depuis 90, je pense que personne n'est prêt maintenant à accepter les risques, surtout qu'on voit qu'on est de plus en plus dans une société à risque, tout le monde le dit, et que tout ça s'accélère. C'est-à-dire que tout va dans le sens où maintenant les feux se sont allumés pour dire attention, regardons, freinons. Je pense qu'on est dans un état d'esprit radicalement différent. Alors, c'est pas pour ça, parce qu'il y a des crises, effectivement, on l'a bien vu avec les banques, les gens recommencent comme avant. Mais c'est à nous de ne pas nous laisser faire.
Oui, alors, avec quand même une nuance qui a été rappelée ce matin dans l'introduction par Fernando Rideau, c'est que malgré tout, la majeure partie de la population, voire la quasi-totalité de la population, en dehors de quelques pourcents informés, ne réagit pas. Et là, il y a une différence essentielle avec les OGM. Je crois qu'il y avait un côté visible des OGM qui a fait qu'il y a eu du répondant dans la population. Là, on a du mal. On a du mal, et on peut vous le dire. Bon, vous avez participé vous-même à des séminaires, etc. On a du mal à mobiliser et apporter une information auprès du grand public. Ici, c'est notre vocation. Aujourd'hui, on a eu une journée où on a eu finalement un nombre relativement important pour nous par rapport aux autres journées. On a eu au pic, on devait être 60. Alors c'est vrai qu'une journée d'études, c'est compliqué. Hein. Quelqu'un qui travaille ne peut pas venir assister à une journée d'études en entier. Mais enfin, on peut vous dire, pour en avoir parlé à l'extérieur, etc., pour en avoir discuté, la thématique nano n'est pas encore très perceptible dans le public. Alors, ça n'est pas une raison pour s'arrêter, bien sûr.
La dynamique change. Il y a une étude encore sur une enquête grand public. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous estimez comprendre ce que c'est? Et en 2 ans, les proportions ont été multipliées par 3 ou 4. Hein. C'est Françoise Roure qui l'a présenté, cette étude-là. C'est une étude européenne qui disait, effectivement, maintenant, c'est de l'ordre de 30% de gens qui disent « oui, j'en ai entendu parler », de l'ordre de 15% qui disent « oui, je sais de quoi il s'agit, vraiment, je comprends le mot ». Alors qu'effectivement, il y a 10 ans, c'était 1% ou 0,5. Donc, je pense qu'on est dans une dynamique qui va dans le bon sens. On n'est pas arrivé au but, mais je pense que, grâce effectivement à ce que vous faites, on est dans la bonne direction. C'est tout ce que je veux dire.
Merci.
Oui, je crois qu'il est effectivement d'actualité, notamment sur tous les aspects de métrologie, toxicologie, de foncer. On a foncé sur tous les aspects bénéfiques, la physique, la chimie, la biologie. Il faut foncer sur la toxicologie pour ne pas prendre de retard du tout. Donc, il faut absolument que le Grenelle arrive sur des choses ultra concrètes, vraiment de compétences, d'hyper compétences en nano, et tant mieux si c'est en France. C'est le moment. C'est-à-dire, c'est vraiment pas le moment de ne pas développer ces choses-là, de s'asseoir. Ah ouais, vraiment pas. Quoi.
Oui, et si on travaille sur les nanos, on trouve de l'argent aussi. Voilà, donc ça, c'est... Il y avait quelqu'un qui me disait hier soir, oui, si je mets nano dans mon programme de recherche, voilà, je suis sûre de trouver de l'argent. Il y a de l'argent. Pour votre centre, y a-t-il de l'argent, monsieur Audi?
Alors, bon, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Philips, et puis après, pendant 12 ans, à l'Université d'Évry, à diriger le laboratoire à chaque fois des milieux nanométriques. Donc, chez Philips, j'avais un soutien total. À l'Université d'Évry aussi, dans ma recherche. Et... ça fait donc 8 ans que je travaille sur les livres, 4 livres qui sont tous traduits chez Springer en anglais, donc qui font le tour du monde. C'est quand même la vitrine des nanosciences françaises. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ait une communauté aussi riche. Mais c'est vrai pour les nanosciences en France comme pour la génétique ou d'autres domaines. Hein. On est vraiment très très bon en sciences fondamentales, 4 prix Nobel de physique en 20 ans. Donc, bon. Alors moi, j'ai été très soutenu sur les livres. Hein. Les livres, j'ai eu un financement, un tiers ministère, un tiers CEA, un tiers CNRS. Hein. Donc on n'a eu aucune difficulté avec Marcel pour gérer ces livres. Et, non, je pense que quand il y a des bonnes initiatives, je pense que ça fonctionne. Quoi. Bon, moi, depuis 30 ans, ça fonctionne. Alors j'espère que... on ne va pas s'arrêter. Je pense qu'il ne faut pas que la France s'arrête. Alors bon, c'est toujours pareil. C'est que la France, elle est très bonne en recherche fondamentale. Alors peut-être moins sur des aspects plus appliqués. Si vous faites de la métrologie, bon, peut-être Besançon peut s'occuper de la nanométrologie, mais peut-être il faut faire ça au niveau de l'Europe parce que la métrologie, ben, les Suisses et les Allemands sont très forts. Donc il faut peut-être faire Besançon plus les Suisses plus les Allemands. Sur la toxico, c'est pareil. Je pense que, bon, moi j'ai une vision française parce que j'aimerais que ce soit la France qui soit motrice, mais on peut avoir une vision plus européenne avec la France qui soit moteur. Airbus, c'est quand même grandement la France qui a été motrice, l'Agence spatiale européenne, etc. Donc, bon, il y a toujours les Français, les Allemands, les Anglais. Mais moi je trouve que ce sont des choses, il ne faut pas rater hein, cette affaire-là. Les nanos, dans les 50 prochaines années, tout va être nano. Donc la France ne peut pas être absente. Hein.
Alors, une dernière intervention, dernière. Puis je vais demander à Roland Quaigneau de venir me rejoindre.
Donc, Roland, tu pourras parler.
Roland, il faudrait venir me rejoindre de façon à aller à la conclusion de la journée.
Oui, désolé si la question peut paraître terre à terre par rapport au niveau du débat qui vient de s'instaurer. D'une part, pour dire quand même que moi, cette organisation me plaît relativement bien dans la mesure où effectivement, si je fais l'analogie par rapport au monde du nucléaire, mais aussi d'un certain nombre d'autres domaines scientifiques, je crois que l'expérience malheureuse de Tchernobyl montre qu'à un moment donné, il y a besoin de se réapproprier les choses. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de mettre à disposition de tout un chacun ses propres produits. Je songe en particulier à ce qui s'est passé autour de Tchernobyl avec les centres de contrôle radiologique indépendants. associatif, voire même, où les gens peuvent venir faire mesurer leur foin, leur lait, etc. Et je crois qu'ils ont pu commencer, ils sont passés, alors, je dirais, sur le plan culturel, moi j'ai entendu deux phrases, hein, en 86, quand il y a eu l'accident, on a enterré la terre sous la terre, et maintenant on est en train de reconstruire la terre sur la terre. Vous voyez la démarche culturelle qui peut imposer, et je crois que réapproprier, donner aux populations les moyens de maîtriser leur destin, me paraît quelque chose de fondamental. Qui est à choquer, je pense que dans le système, je ne suis pas un économiste ou un industriel acharné, je suis plutôt un fonctionnaire d'habitude, mais en l'occurrence, je me dis que vouloir laisser la place uniquement à quelques grands groupes privés qui ont des moyens financiers me paraît extrêmement dangereux sur le système économique et sur le système tout simplement, y compris du contrôle des risques qui sont associés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense qu'il serait bon également que la petite, voire la très petite entreprise puisse aussi bénéficier d'un certain nombre d'apports technologiques. Or, dans les quatre journées du cycle, tout comme on a, je note qu'on a éludé complètement la question du contrôle populaire derrière, on a éludé le problème du transfert de technologie et du rôle d'écrite. Et moi, j'aimerais bien qu'à ce niveau-là, ça puisse apparaître à un moment donné. Je crois que c'est un maillon fondamental de la dissémination, alors certes peut-être des nanoparticules, mais aussi du savoir et de la réappropriation et de ne pas confier à des grosses structures, fussent-elles d'État, ou a fortiori d'État, en tout cas, quelle qu'elle soit, qu'elle soit opaque et qu'elle soit pas transparente. Donc je crois que c'est deux notions, à mon avis, liées, interdépendantes, à la fois le contrôle populaire, à la fois la diffusion. Ça me paraît être des notions extrêmement fortes pour justement mieux maîtriser les risques. Et puis sur les risques, c'est une petite remarque, hein, vraiment négligeable. Vous avez cité effectivement ce que crache un volcan et que quelle est la part ajoutée par l'homme. On a eu le même discours à un moment donné sur le volcanisme et les émissions atmosphériques de plomb. Il n'empêche qu'on a interdit le plomb dans l'essence parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas se garder comme seul argument. La nature a fait mieux que nous, donc nous, on peut se permettre d'en rajouter. Là aussi, comme en toute chose, dès lors qu'il y a une part d'effet délétère, fût-il faible, le moins est toujours le mieux, si je puis me permettre.
Merci.
Oui, merci d'avoir souligné l'imperfection de notre organisation. Mais ça nous permettra de rebondir, j'espère, à l'avenir.
Ah ben alors. Oui, j'avais une question à poser à M. Oudy. C'est tout à l'heure dans la présentation que nous a faite le responsable confédéral de la CFDT. Il nous a dit que bon, ils avaient participé au débat, etc., qu'un certain nombre de propositions étaient faites, et que normalement, si l'État jouait le jeu, après ce débat et ses conclusions, il y a des choses qui devraient avancer. Et il a dit, si dans 6 mois, rien ne sort, nous, on risque de ne plus être aussi conciliants, participatifs, mais on pourra peut-être user d'autres moyens. Pourquoi pas bloquer certaines productions, etc. Je ne sais pas. Hein, bon. Vous, de votre côté, avec les propositions que vous faites, qui me paraissent tout à fait intéressantes, est-ce que vous, scientifiques concernés par ces questions, vous pourriez vous aussi monter au créneau et de quelle façon?
Bon, chacun son métier. Donc, moi, j'étais très content de rencontrer à travers le débat public. Donc les personnes des associations, les personnes des syndicats, je trouve qu'on a vraiment très très bien travaillé ensemble et on est arrivé à cette proposition qui a été notée ou pas, Dieu nous le dira. Donc moi je suis prêt à toute réflexion, je suis prêt à ce que ce modèle qu'on avait proposé soit diffusé partout si on fait appel à moi. Moi, je suis un scientifique, citoyen, voilà, je peux apporter ma réflexion. Je ne suis pas un leader syndical. Moi, j'attends que le leader syndical fasse appel à moi. Moi, je suis allé dans 100, à peu près, de l'ordre de 100 séminaires sur les nanosciences depuis 4 ans à travers la France. Donc, je réponds toujours positivement. Je suis allé dans tous les organismes. Je suis venu à l'évêché de Poitiers, qui m'avait invité. Je suis allé voir les francs-maçons, je vois les régions, les départements. Je suis allé au comité d'entreprise de Dassault. Tout. Donc je réponds positivement à toutes les demandes qui sont faites et je suis prêt à faire des propositions, donner des avis, présenter ce modèle à toutes les personnes qui le demanderont. Donc ça, c'est mon métier. C'est dans le professeur d'université, vous avez la diffusion des savoirs et j'exerce mon métier. C'est pas à moi d'être un activiste qui doit donc créer un mouvement d'action. Hein, ça, moi, je fais totalement confiance à mes collègues syndicalistes pour faire ça.
C'est souvent la réaction pour les scientifiques tout à fait légitime quand on pose ce genre de questions.
Bien, il y a quelques vaillants qui sont encore là. On va conclure. Roland, je vous ai demandé de venir parce que vous avez la palme de l'assiduité, littéralement. Et je vous remercie vraiment d'avoir été là du début à la fin. Vous êtes notre grand témoin. Vous nous avez sollicité à plusieurs reprises pour intervenir. On avait sollicité des personnes de France Nature Environnement. Dominique Proy-Huard avait donné son accord. Elle a renoncé. José Cambou n'a jamais été libre, etc. Donc, ça n'est pas de notre fait. Et je le regrette. Alors, je pense qu'on le fera ultérieurement, puisque ce que je retiens surtout, et vraiment, je crois que votre dernière intervention est capitale là-dessus, c'est de continuer. De continuer. Voilà. Alors, je vous laisse conclure.
C'est une bien lourde responsabilité. Bon, vous m'avez effectivement invité alors que j'ai un peu fait le forcing pour que la sensibilité que je peux représenter ici départementalement, donc Vienne Nature, c'est une association départementale agréée de protection de la nature et de l'environnement qui fait partie de la fédération française qui s'appelle France Nature Environnement, laquelle a beaucoup participé donc, au débat public national. Qui a également, comme plein d'autres, évidemment, édité un cahier d'acteurs parmi les 50. On le voilà. Il est tout à fait disponible sur le site du débat public hein, ou sur le site de France Nature Environnement. Bon, au sein de France Nature Environnement, c'est une personne que vous connaissez sans doute, José Cambou, qui porte un petit peu le drapeau. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir, de même que Mme Proy-Huard. Bon. Alors, donc, très modestement, au niveau départemental, moi, je peux rappeler quand même que France Nature Environnement, ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est quand même une fédération de plus de 3000 associations qui représente, allez, on va dire, 700 à 800 000 personnes, en gros, engagées. Alors, dans des domaines très différents, hein, la biodiversité, et au plan départemental, nous faisons, voire régional, puisque Poitou-Charentes Nature est notre fédération régionale, nous faisons de nombreux inventaires de biodiversité sur les papillons, les chauves-souris, les libellules. Un très beau livre vient de sortir sur les libellules, par exemple, etc. On voit avec plaisir revenir le castor, par exemple. Hein. Bon, on suit l'évolution de la biodiversité et c'est très nécessaire dans la mesure où le changement climatique va certainement avoir une grosse influence là-dessus. Il faut permettre, et on y veillera dans le dispositif de trame verte et bleue, il faut permettre aux espèces de pouvoir se déplacer pour suivre d'éventuels changements climatiques, hein, très important. Bon, et puis, au-delà de, de ce fonds de commerce, je dirais, qui est le nôtre depuis de nombreuses années, puisque Vienne Nature, par exemple, ça existe depuis 1967, hein. Bon. Il y a également l'implication dans tout ce qui est, on va dire, l'environnement au sens large, les déchets, l'eau, l'énergie, etc. Alors, en ce qui concerne les nanotechnologies, ben moi, je voudrais d'abord remercier l'Espace Mendès France d'avoir organisé ce cycle. C'est vrai que j'ai été très assidu parce que je pense que c'est une question très, très intéressante qui a été traitée par de nombreux intervenants. C'est vraiment un panel très large. Et là, encore aujourd'hui, sur l'aspect sociétal et les problèmes d'éthique, on a vu que des points de vue, bon, quelquefois un peu différents, se faisaient jour, mais c'est quand même très intéressant. Alors, moi, je rappellerai simplement pour conclure, si vous voulez, que France Nature Environnement et nous-mêmes au plan départemental ou régional, on veut continuer à participer à ce débat. Hein. Ce n'est pas la politique de la chaise vide. La personne de la CFDT a rappelé la convention que nous avons passée nationalement, FNE et CFDT, pour avancer. Il y a beaucoup de points de convergence. Hein. Il faut qu'on essaie davantage d'impliquer le public. Alors ici, ça a été une réussite quand même, hein, sur une année. Mais néanmoins, bon, les publics étaient de l'ordre de quelques dizaines de personnes à chaque fois. la conférence, non mais quelques dizaines, on l'a, 60 aujourd'hui, non pas en tout bien sûr, pas en tout, mais à chaque fois, il est possible je pense d'organiser peut-être des conférences plus grand public et peut-être dans un autre cadre, je n'en sais rien, j'en veux pour preuve ce que nous avons organisé nous de temps en temps à l'ESIP par exemple, sur des sujets comme l'agriculture, on invitait Philippe Desbrosses, etc., où il y avait 100 à 200 personnes. Quoi. Donc c'est possible, je pense, et il faudrait que ça se fasse. Je pense que ça se fera. Et puis aussi, mais vous m'en avez un petit peu touché deux mots tout à l'heure, mais vous allez peut-être pouvoir vous engager, ce serait dommage que tout ce qui a été dit là, dans ces différentes journées ne soit pas diffusé. C'était un peu la demande de Joël Robert de l'ARS tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit diffusé. La forme, c'est à vous d'en juger, bien entendu. Mais ça sera vraiment un point de départ pour un élargissement et une continuité du débat. Hein. Voilà.
Merci. Alors, juste un mot pour la suite. Effectivement, il y a eu une demande même au niveau national pour qu'on valorise tous ces efforts que l'on a fait. Alors le problème, c'est que personnellement, je ne me vois pas en train de repartir sur le tome 7 par rapport à vous, parce que vous avez déjà fait un effort considérable. Donc, il faut trouver une forme adaptée. Aujourd'hui, je ne l'ai pas en tête, vraiment. Je ne suis pas sûr que ce soit des actes au sens strict qu'il faille mettre en place. C'est peut-être de nouvelles formes, ça peut être des vidéos. Moi, je suis assez inventif là-dessus. On a lancé des webconférences. D'ailleurs, il y en a eu avec des nanotechnologies, y compris art et nanotechnologies, ce qui est très original, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, est important aussi en interne. Donc il va falloir qu'on trouve une forme et on va y réfléchir. Je m'engage à ce qu'il y ait une suite, soit sur de la capitalisation par rapport à ce que l'on a fait, mais c'est-à-dire peut-être solliciter les mêmes intervenants, mais sous d'autres formes, pour aller vers le public et le plus large possible, ou nous-mêmes produire quelque chose en interne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci aux étudiants qui ont été là. C'est vous qui êtes de Limoges ? Non, les Limogeaux sont partis. Ils sont partis, je les comprends. En tout cas, c'est très bien qu'ils soient venus jusqu'à nous aujourd'hui. Et merci à tous les intervenants. C'était passionnant et donc ça nous incite à poursuivre. À la prochaine. Merci.